Vous êtes sur RTL.
Il est 12h30.
RTL.
Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Quand il parlait de tirer à 100 000 exemplaires.
100 000 copies.
50 000, pas 100 000.
Est-ce que tu peux être vaniteuse?
C'est quoi ça, maman? Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois.
Quelle emmerdeuse.
Le journal inattendu.
Il faudrait que j'essaie de déplacer votre lit. Il faudrait que vous puissiez admirer la vue.
Pourquoi tenez-vous tellement à me maintenir en vie?
Parce que je suis infirmière.
And the Oscar goes to Juliette Binoche in The English Patient.
12h30, 13h30, le journal inattendu de Juliette Binoche.
J'ai pas fait tout ça là pour me retrouver avec un flippé qui me pose des questions tordues, qui me donne des leçons.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
Alors taisez-vous.
Alors on va essayer de pas poser des questions trop tordues, mais on va pas se taire. Bonjour Juliette Binoche. Merci d'être pour une heure la rédactrice en chef de ce journal inattendu. En attendant Noël, puisque le 25 décembre sortira ce dernier film de Kore-eda et Okazu, Palme d'Or à Cannes, on s'en souvient, avec une affaire de famille, pardon. Et c'en est une autre d'ailleurs, de famille un peu bancale, celle-là. Dans La Vérité, vous êtes la fille de Catherine Deneuve, une grande actrice qui publie ses mémoires. C'est l'occasion de retrouvailles, des trouvailles qui vont nous montrer que la vérité familiale est parfois à géométrie variable. Alors on va découvrir le film, revenir sur votre carrière, mais on va aussi vous laisser carte blanche avec votre invité, Thomas Breil, un militant écologiste, j'ai envie de dire bien perché. Il est arrivé, vous venez de le saluer par la vitre. Par exemple, il avait passé 28 jours dans un arbre devant le ministère de l'écologie. Je crois d'ailleurs que vous étiez allé le retrouver pour un petit déjeuner en altitude.
Oui, j'étais le voir parce que pour le soutenir, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est formidable pour les hommes, pour les arbres, pour nos l'air et l'oxygène.
Voilà, il est grimpeur arboriste, il sera avec nous à 13h. On ne va pas d'ailleurs que s'élever dans les arbres. Vous avez voulu donner un coup de projecteur à Annick de Souzenel, son discours sur la spiritualité, c'est passionnant, on l'entendra, c'est votre choix. Et puis en fin d'émission, vous recevrez un coup de fil d'un ami. J'en dis pas plus, car c'est à vous de parler maintenant, Juliette Binoche, de parler de vous tirer le portrait.
Alors, j'ai été prévenue à 23h hier soir, donc j'ai écrit un peu au dernier moment.
Vous êtes pardonnée.
Je suis déjà pardonnée, donc je prends la troisième personne au départ, parce que c'était plus facile pour moi d'écrire. Mais bon, elle croit à tout ce qu'on lui dit. C'est une rapide dans ce qu'elle capte. Rieuse, bûcheuse, ronchonneuse, gourmande, amoureuse et curieuse, dans tous les sens. Française, oui, mais qui aime les voyages comme quelqu'un qui viendrait des quatre coins de la terre. Elle a des plaquettes polonaises, brésiliennes, flamandes et une pincée marocaine dans l'âme. Petite, elle aimait faire, fabriquer, bricoler même. Et puis jouer, c'était comme s'échapper. Échapper à la solitude, au cauchemar récurrent et plonger dans tous les possibles. Retrouver un lieu aimant, un imaginaire. Dans la nuit des dortoirs, elle préférait jouer plutôt que de dormir. Et elle croit. Elle croit les mains jointes, mais elle croit plus encore au bonheur de vivre, à la vie des escargots sauvés, des poupées froides qui ont besoin de chaleur. Sa famille écartelée l'a rapprochée des anges et des peurs terribles du noir. Très haut dans le ciel, comme Dumbo, elle a sans doute choisi son père et sa mère, car ils baignaient tous les deux dans le monde des arts, théâtre, littérature, etc. Féministe et écolo avant l'heure pour sa mère et éternelle communiste pour son père jusqu'à un certain point, car il a rendu sa carte comme on rend son âme. Elle a une sœur, Marion, qui fait des documentaires merveilleux et a découvert deux frères du côté de son père, Camille, clarinettiste, et Sébastien, producteur de films. Ce dernier rencontré seulement l'année dernière. La famille s'élargit et c'est de la balle, comme dirait mon fils. Adolescente, joue en feu, Juliette avait une bande de copains avec qui elle faisait du théâtre avec sa mère, Jean-Philippe, Francine, Florence et Isabelle. Mais la vie a dû faire qu'elle a dû quitter la douce France, les vallées du Loir-et-Cher, les arbres fruitiers et les longues soirées aux immenses couchers de soleil. La nostalgie de cette campagne qui fait du bien sera un repère pour sa vie. Montée à Paris, le théâtre prend forme, le dessin aussi. Et c'est le cœur battant que je me lance dans une folle aventure de cinéma et de théâtre. À 17 ans, Jean-Pierre Martineau et à 19, Vera Gregg, mes professeurs de théâtre, m'ont donné à réaliser mes gammes et arpèges et à casser cette volonté qui me définissait. Peu sûr de moi, mais à la fois avec une certitude décapante, casting après casting, le rendez-vous a pris avec André Téchiné. J'avais le premier rôle dans un rôle provocant et solitaire. Cannes fut le palais de ma consécration publique et la spirale de ma vie a pris d'autres tournures. J'ai dû ouvrir mes voiles, prendre le vent en face, étonnée de ce qui m'arrivait. Ma volonté s'est transformée en responsabilité et mon désir en risque vers d'autres contrées. La danse, le chant, la peinture font partie des talents qui se sont formés peu à peu, poussés par des rencontres fabuleuses. Akram Khan, chorégraphe, et Alexandre Tarot, virtuose au piano. Aujourd'hui, quelques décennies plus tard, j'admire mes deux enfants, Raphaël et Anna, et je suis toujours émerveillée par la passion partagée sur les plateaux de cinéma et de théâtre. J'ai moins peur. Je suis un peu plus vite fatiguée, je prie tous les jours, je m'énerve parfois, j'organise, je paie, je ris, je lis et je vous dis merci.
Et nous aussi, on vous dit merci Juliette Binoche pour ce magnifique autoportrait, j'allais dire de l'essentiel, on va reparler de tout cela, on va reparler, on a une heure pour ça. Mais on commence évidemment par l'actualité dominée par la scène d'une ministre prise à partie au cri de « casse-toi la ministre, Macron démission », c'était hier soir à Saint-Ouen, la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Nous. Elle réagit sur RTL. Elle sera avec nous dans un instant. Un important incendie la nuit dernière dans une raffinerie Total proche du Havre. Le feu est maintenant éteint. Les premières mesures de qualité de l'air sont négatives. Le trafic SNCF-RATP toujours perturbé ce samedi et ce week-end. Le football, la victoire de Lille sur Montpellier hier soir. OMS à 17h30. Sachez que le slalom messieurs de la Coupe du Monde de ski de Val d'Isère a été annulé en raison du vent. C'est vrai que ça a beaucoup soufflé. Faut dire que les intempéries ont fait pour l'instant un mort et un disparu dans le sud-ouest. 40 000 foyers sont privés d'électricité et il reste 14 départements en vigilance orange, Peggy Broche.
Exactement, 10 dans le sud-ouest pour inondation, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour risque d'avalanche et la Haute-Corse pour des vents violents. Sinon, partout ailleurs, ça va se calmer au niveau du vent cet après-midi. Côté ciel, ça restera nuageux et pluvieux entre les Charentes, la Gironde en allant jusqu'aux Alpes. Et puis, on retrouvera un temps plus sec et plus lumineux près des Pyrénées, plus ensoleillé vers la Méditerranée. Et au nord de la Loire, on a un temps qui alterne entre nuages et éclaircies avec quelques averses localement, tout ça sous des températures douces, entre 8 à Lille et 21 à Bastia.
Merci. Rompez d'ailleurs, Peggy Broche, parce que vous le savez, à 13h, eh bien, c'est Juliette Binoche qui fera Madame Météo.
Si, avec plaisir.
C'est sûr.
Les annonces de beau temps.
Une ministre exfiltrée face à la pression physique, aspergée d'eau, confrontée aux insultes, aux agressions verbales. La scène s'est donc déroulée hier soir. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était venue assister à un match de foot au stade de Saint-Ouen. Je vous propose d'écouter quelques instants de cette scène et puis ensuite d'en parler directement avec elle, puisque la ministre est avec nous. Bonjour Roxana Maracineanu.
Bonjour.
Et merci de réagir sur RTL ce midi à ce que vous avez vécu hier soir à Saint-Ouen et que l'on vient d'entendre, ces violences verbales, cette pression physique. Dans quel état d'esprit êtes-vous au lendemain ?
Bah écoutez, hein, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de la part du président, des équipes de foot qui étaient sur le terrain, que vit le Red Star, et puis d'autres personnes dans le football qui n'accepteront pas, et comme je le fais aussi, que le football soit pris en otage d'une poignée de supporters violents. La situation de hier, c'était la situation d'une ministre des Sports qui vient voir un match de foot de National, et j'avais envie de passer du temps avec des supporters dans les gradins. J'en ai profité pendant la première mi-temps pour revoir le président Haddad et le maire de Saint-Ouen pour discuter de l'avenir du stade. Mmh. Et à la mi-temps, en fait, quand je suis descendue boire un coup avec des amis qui étaient là et lorsque j'étais dans la foule, deux, trois supporters sont venus m'interpeller et discuter avec moi de mes prises de position sur les chants des supporters, sur également d'autres thématiques qui concernent le gouvernement de manière plus large.
Vous voulez parler, par exemple, des retraites ?
En fait, ils m'ont dit que une partie d'entre eux était en grève et pourquoi ils étaient en grève et leur point de vue. Donc, j'ai commencé à discuter avec eux. Et puis après, il y a eu une dizaine d'autres personnes qui sont venues autour et qui ont mis leur foulard sur la bouche et qui ont commencé à crier très fort et à manifester comme si on était dans une manifestation. Et en fait, c'était pas possible de discuter avec eux. Quoi.
Ouais, vous avez essayé d'entamer le dialogue ?
Oui, avec les gens qui parlaient, ouais. j'ai entamé le dialogue et puis j'ai échangé avec eux. Et puis avec des gens qui criaient et qui ont commencé à se rapprocher, à nous bousculer. Qu'est-ce que vous voulez entamer comme dialogue ? Donc, à partir de ce moment-là, on a préféré partir. Voilà, je trouve ça incroyable que moi, venant de la société civile, avec cette casquette de ministre des sports, sportive moi-même, que je puisse entendre dans un stade, vous n'avez rien à faire là, partez, on est chez nous.
En l'occurrence, il y a eu des actes de violence verbale, des agressions verbales, voire de la pression physique directe. Est-ce que vous demandez des excuses ou est-ce que vous entendez donner des suites judiciaires à cette affaire ?
Je pense que c'est pas de ce niveau-là. Hein, ce que j'ai vécu hier soir, voilà, c'était une dizaine de personnes sur tout le stade qui sont venues manifester politiquement. Voilà, ils se sont filmés eux-mêmes et je pense que dans cette situation-là, c'est eux qui en ressortent perdants. On a l'impression que c'est des animaux derrière des grilles, quoi. Donc c'est dommage pour eux, c'est dommage pour le football. Et je ne comprends pas qu'une personnalité publique, qu'elle soit ministre ou président de la République ou premier ministre, ne puisse pas être en sécurité et respecter comme le respect qu'on doit à chaque être humain quand on est en société, quoi.
Merci beaucoup d'avoir réagi sur l'antenne d'RTL, Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Merci beaucoup.
Merci.
Et évidemment, je me tourne vers vous, Juliette Binoche. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je trouve déjà de mettre une femme en tant que ministre du sport, c'est osé. Ouais. C'est très osé parce que c'est quand même un monde plutôt masculin et qui fait quand même sortir le côté animal de l'être humain. Pas toujours, évidemment, mais enfin, disons que c'est quand même ce qui en ressort beaucoup. Donc, je suis pas tout à fait étonnée. Et puis, il y a une misogynie qui est quand même profonde et qui fait peur parce que qu'il y a aussi il y a un mélange de choses.
Il y a aussi des tensions actuelles. Je sais que vous voyagez beaucoup.
Bien sûr.
Vous avez, par exemple, vous êtes revenu, je crois, cette semaine de l'étranger. Vous avez senti qu'il y avait un climat grande tension.
En tout cas à Paris, d'être coincé dans les embouteillages et puis de voir l'énervement qui monte. Bon, on a déjà vécu ça en France et à Paris, mais disons que c'est un climat tendu et difficile. Mais j'espère qu'on en ressortira vainqueur et vive les vélos d'ailleurs.
Voilà, parce que maintenant vous avez inauguré le vélo dans Paris.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est certain, c'est que le pays donc est traversé par des tensions et que la grève continue. Un TGV sur 4 en moyenne aujourd'hui, encore un intercité sur 5, un transilien ou un RER sur 6. Le président de la SNCF a appelé les grévistes à faire une pause pour Noël et on devrait connaître en début de semaine le trafic prévu lors des fêtes. En tout cas, prendre le train pour aller chez le médecin serait une bien mauvaise idée puisque les médecins sont en grève également. Ils ont gardé porte close ce matin à l'appel de leur syndicat MG France. On marque une pause, on se retrouve tout de suite dans le journal inattendu de Juliette Binoche.
Le journal inattendu de Juliette Binoche avec Vincent Parisot sur RTL.
Dans l'actualité, il y a aussi la Seine-Maritime où les habitants qui ont appris hier l'autorisation donnée pour la réouverture partielle de l'usine Lubrizol, ces habitants ont dû craindre que le cauchemar recommençait puisqu'un important incendie s'est déclaré vers 4h du matin à la raffinerie Total, cette fois de Gonfreville-Lorcher. Heureusement, le feu est désormais éteint et les premières analyses sont rassurantes, Julien Caillard.
Oui, l'incendie est en voie d'extinction. Il ne reste qu'un ou deux foyers résiduels. Ce midi, plus aucun panache de fumée n'est d'ailleurs visible aux abords de cette raffinerie la plus grande de France. Le feu qui a pris aux alentours de 4 heures ce matin, le POI, le plan d'opération interne du site, a été déclenché. Les pompiers de la raffinerie sont immédiatement intervenus. Le sinistre est parti d'une pompe servant à faire circuler le pétrole brut, mais il n'a fait aucun blessé. Tôt ce matin, la préfecture avait par mesure de précaution recommandé aux habitants situés aux alentours de ne pas sortir de chez eux en raison du dégagement de fumée. Recommandation levée ce midi, les analyses de l'air n'ont pas révélé la moindre toxicité selon les autorités.
Julien Caillard, les intempéries dans le sud-ouest, elles ont fait donc au moins un mort et un disparu. Un automobiliste de 70 ans tué par une chute d'arbre hier au Pays Basque et un homme de 76 ans sorti de chez lui pour prendre son courrier dans le Lot-et-Garonne. 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le football, 18e journée de Ligue 1. Lille a remporté sa 4e victoire d'affilée hier soir face à Montpellier, 2-1. À suivre cet après-midi à 17h30, FC Metz, Olympique de Marseille. 5 autres matchs à 20h dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Et puis c'est pas du sport, mais il y aura un vainqueur ou plutôt une gagnante. Ce soir, le concours de Miss France organisé à Marseille. Je tiens à vous dire que la nouvelle Miss, la Miss 2020, sera l'invité de la matinale de Stéphane Carpentier. Il a de la chance, Stéphane. Demain à 8h50. Alors évidemment, comme chaque année, depuis 2-3 ans, la polémique enfle autour d'un concours jugé sexiste par les associations féministes. Vous qui l'êtes, féministe.
Je crois qu'on devrait tous l'être. Hein. C'est pas féministe, c'est pas contre les hommes. C'est ça qu'il faut clarifier. C'est juste remettre à plat un peu des droits qui ont été depuis quelques siècles mis de côté. Et les femmes, je pense, doivent reprendre une place ou plutôt les hommes doivent donner de la place. Mais
Et si, écoutez, si je vous propose de regarder ce
Miss
soir
Julie, non, j'aurais d'autres choses à faire, bon. C'est sûr. Mais bon, je comprends qu'une belle femme, c'est toujours merveilleux à regarder. Mmh. Mais je trouve que c'est chosifier la femme, c'est chosifier le corps. On n'est pas qu'un corps, il y a quelque chose dedans. Et on met une importance on a tous envie d'être beau, évidemment. Mmh. Mais je pense qu'on a d'autres choses à faire aujourd'hui. Il y a d'autres urgences, si je puis dire.
Ah, tiens, justement, on va y venir.
RTL, le choix inattendu.
Alors, c'est votre choix, Juliette Binoche, de mettre en lumière une personnalité. On va y venir dans quelques instants avec Annick de Souzenel. Mais avant cela, j'allais dire en introduction, je voudrais vous soumettre une question que vous a posée l'invité de la semaine dernière, l'écrivain scientifique Bernard Werber. On l'écoute.
Bonjour Juliette Binoche, c'est Bernard Werber. J'ai cru comprendre par mon ami Patrice Van Hersel que tu aimais bien les anges et je crois même que tu communiques avec eux. Alors je voulais savoir, est-ce que tu communiques avec ton ange? Est-ce que tu as un contact avec l'au-delà? Et qu'est-ce que tu fais de ce rapport peut-être avec le monde invisible?
Alors les anges.
Oula, il ouvre un grand chapitre là. Oui. Écoutez, moi je trouve les anges très pratiques.
Mmh. À quoi ça sert un ange?
Eh ben à se garer, par exemple, trouver une place quand on n'a pas de place nulle part.
Ah, c'est pratique ça.
À avoir une intuition qui dirait que oui, ben je choisis ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'intuition qui me dit. Mmh. Donc c'est un maître intérieur c'est-à-dire un soi dans le soi qui nous aide à vivre tout simplement. C'est assez simple, mais faut avoir l'oreille tendue.
Un petit peu.
Oui, tout à fait. Il faut avoir l'oreille tendue. Et
il faut l'écouter, cet
ange. Il faut écouter le silence. Et les anges sont là.
Alors, votre choix, Juliette Binoche, vous avez décidé de nous faire connaître une femme étonnante, Annick de Souzenel, qui depuis des années travaille sur la spiritualité, notamment autour de la Kabbale, qui est une tradition ésotérique du judaïsme. Je vous propose de l'écouter.
Oui.
Et puis on réagit. Annick de Souzenel, qui était ici avec le sociologue Frédéric Lenoir.
Je me vois encore petite fille me disant « Mais dans quel monde absurde je suis tombée ?» J'étais en pension, tout à fait perdue, étant donné que j'avais plus de repères ni affectifs, ni géographiques même. Et là, je suis descendue aux enfers. Et j'ai vu un autre monde dans les enfers. Donc je savais qu'il y avait un autre monde. Et c'est cet autre monde que j'ai cherché toute ma vie. Je relisais cette semaine le discours de Solzhenitsyn quand il est arrivé aux États-Unis. Et qu'il montrait qu'il quittait un monde de folie, le marxisme, mais qu'il trouvait en Occident un monde d'une autre folie, le capitalisme. On retrouve entre le capitalisme et le marxisme, si vous voulez, la dialectique du un et du multiple. Et aujourd'hui, c'est l'effondrement de tout. Je crois que nous vivons un grand chaos où se sont effondrées les valeurs du multiple, où se sont effondrées les valeurs du un seul. Et nous sommes à la veille, à mon avis, d'un retournement extrêmement important qui va se faire. Mais nous sommes dans le chaos le plus total aujourd'hui. Et en même temps, dans ce chaos, je vois poindre des valeurs. Celles-là, on n'en parle pas, justement. Mais moi, je vois poindre des valeurs extraordinaires et des gens qui cherchent leur véritable être profond.
Voilà, Annick de Souzenel. Oui. Elle parle de ces gens qui cherchent leur véritable être profond. Ça vous parle ?
Ben, je pense qu'on est tous là un petit peu pour ça, d'être en relation avec une autre partie de nous-mêmes qui fait avancer le monde, qui nous fait évoluer. On a changé depuis bien des millénaires. Donc,
pourquoi elle vous fascine, cette femme, Annick de Souzaine?
C'est plus qu'elle me fascine, c'est qu'elle, c'est une source d'enseignement, de valeurs qu'on a perdues, ontologiques, et qui nous remet dans une réflexion et à une racine de ce qui a été donné. Moi, je pense qu'on doit être nourri par des textes comme la Bible, parce que ce sont des symboles, parce que ce sont des histoires comme des mythes qui nous sont racontés et qui sont au-delà du temps, qui sont vraiment intrinsèques à la connaissance de l'être humain. Ouais. Donc, sur Internet, on peut voir ces interviews et aussi ces livres qui sont formidables. Et elle a su faire le lien entre une tradition hébraïque qui est donc la Kabbale et de faire le lien avec le christianisme et aussi d'autres valeurs parce que elle s'intéresse aussi à d'autres traditions aussi bien bouddhistes que taoïstes que soufis et je trouve que de faire les liens de ces traditions là c'est extrêmement important parce qu'on doit retrouver un lien interne, invisible, entre soi et soi-même, et donc les autres. Et c'est vrai que on voit des batailles maintenant, des manifestations tout partout dans le monde, et en l'occurrence en France, les gens sont perdus. Il y a un lien qui est coupé. Et c'est reprendre ce lien-là, ça fait partie pour moi essentielle d'une réalisation personnelle de chacun.
Juliette Binoche, qui se confie sur RTL dans son journal inattendu. Et dans un instant, la vérité.
Le journal inattendu sur RTL, avec Juliette Binoche et Vincent Parizeau.
Comment ça se passe sur le tournage?
Elle apprend pas son texte. Non, mais c'est de ta faute, hein. Tu l'as tout passé pendant 40 ans.
Comment ça, tu t'en vas?
C'est un peu soudain, non?
Pourquoi tu fais ça? Sans toi, elle va pas s'en sortir.
Moi? Ah non.
Vous formez un bon du loup.
Ah non, c'est hors de question.
Maman, ça va commencer, là.
Évite de m'appeler maman.
Bah, comment veux-tu que je t'appelle?
Autrefois, elle n'était pas comme ça.
Moi, j'ai toujours connu comme ça.
Tu devrais prendre un peu plus de soin des gens qui t'entourent.
Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une bonne actrice.
T'es jamais venue voir la pièce que j'ai jouée.
T'es sûr?
Le magicien d'Oz se souviendrait, non?
On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail?
La mère et la fille dans La vérité sur les écrans le jour de Noël, tiens le 25, le dernier film d'Hirokazu Koreeda, le réalisateur d'une histoire de famille qui, on s'en souvient, avait obtenu la palme à Cannes, la palme d'or en 2018. Donc vous êtes Lumière, scénariste installée à New York, fille de Fabienne, Catherine Deneuve, icône du cinéma qui publie ses mémoires. C'est l'occasion pour vous et votre petite famille de venir la voir dans la maison de votre enfance. Ça, c'est le point de départ de La vérité. Vous avez choisi, Juliette Binoche, ce film pour le réalisateur, considéré aujourd'hui comme un des plus grands, ou pour l'association avec Catherine Deneuve, comme vous, icône du cinéma, et comme vous, symbole dans le monde entier.
Bah pour les deux, de mon France. Colonel, hein, parce que l'un est aussi attirant que l'autre.
Mais vous retrouvez à l'affiche avec Catherine Deneuve, ça a quand même...
Ah oui.
Ça signifie quelque chose, c'est un gros clin d'œil.
D'autant plus que moi j'étais une aficionados de son pot d'âne, que je connaissais la chanson par cœur pour faire le gâteau et trouver une alliance possible. Donc j'ai adoré Catherine Deneuve petite, et c'est vrai qu'on s'était jamais vraiment croisés au cinéma, enfin à des festivals rapidement, mais jamais en vrai en face d'une caméra. Et j'étais très heureuse à l'idée de jouer avec elle. Et ça n'a pas été évident au départ, parce que pour jouer sa fille, d'abord j'avais envie vous voyez, mais de la tutoyer pour avoir un lien fort. Donc, comme elle refusait un petit peu au départ, sa résistance a duré pendant quelques semaines, jusqu'au moment où elle a bien voulu.
Catherine Deneuve, au départ, ne voulait pas que vous la tutoyiez.
Non, mais bon, elle est connue pour ça, hein, mais parce qu'elle aime bien garder une distance qui est tout à fait valable. Mais pour jouer sa fille, ça me semblait bizarre de la tutoyer pendant le tournage et en dehors du tournage, de la vouvoyer. Donc, Je me suis attelée à cette cause-là. Donc, elle continue à me vouvoyer. Moi, je la tutoyais. Mais finalement, elle s'est prise au jeu. À la fin du tournage, elle est revenue au vouvoiement quand on s'est envoyé des textos. Ouais. Et puis, je me dis, allez, ça y est, c'est reparti pour un tour. Et puis, finalement, on a été voir le film à Saint-Sébastien au festival. Et à la fin de la projection, je suis venue la voir et elle m'a tutoyée. Je me suis dit, ça y est, je l'ai conquise. Et voilà, c'était réciproque. Je crois qu'on s'est beaucoup apprécié. Il y a beaucoup d'humour entre nous et ça se sent dans le film. C'est une comédie. Koreeda, le réalisateur, a voulu que ce soit une comédie, mais il y a quelques scènes où on devait se confronter. Et c'est vraiment l'histoire d'amour entre une mère et sa fille et aussi tous ces personnages, ces hommes qui sont un peu sur le côté, mais qui essayent de résister face à cette
On y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Au final, à ce titre, pourquoi la vérité ? Mais je voudrais juste rebondir avant 13h. À un moment, on entend Catherine Deneuve qui dit « Je préfère avoir été une mauvaise mère et être une bonne actrice ». Moi, je voudrais poser cette question à la bonne actrice que vous êtes, effectivement. Est-ce que vous pourriez
jamais dire une chose pareille, parce que pour moi, ça a toujours été aussi important, être mère, parce que déjà, à 10 ans, j'étais en train de parler à mon fils, donc vous voyez, c'était déjà bien intégré, et que actrice, je voulais être actrice de théâtre et pas du tout de cinéma, et c'est un peu le cinéma qui m'a enlevée vers d'autres contrées. Donc, non, pour moi, ça a toujours été important d'être les deux, mère et actrice, et aussi amoureuse, c'est un trio, et quand j'ai voyagé, j'ai toujours emmené mes enfants, sauf à un certain moment quand ils étaient plus âgés, où c'était eux qui choisissaient.
On est déjà très en retard, on va faire la pub. Il est 13h, rappelez l'actualité. Juliette Binoche, c'est promis, va nous faire la météo. Et ensuite, on va accueillir son invité, Thomas Breil, l'homme qui grimpe dans les arbres pour les sauver. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL. Avec
on a une excuse, on est avec Juliette Binoche. Il est 13h03.
Le journal inattendu de Juliette Binoche.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et dans l'actualité, il y a cette scène d'une ministre prise à partie au cri de « Casse-toi la ministre, Macron démission ». C'était hier soir à Saint-Ouen, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, victime de violences verbales, de pressions physiques. Elle a dû être exfiltrée du stade où elle était venue voir un match. Elle a réagi tout à l'heure sur RTL. C'est désolant pour eux, a-t-elle dit en parlant de ses supporters, jugeant anormal qu'un ministre ne puisse pas sortir sans être pris à partie. Elle assure par ailleurs avoir reçu des messages de soutien de ses collègues du gouvernement. Un important incendie la nuit dernière dans une raffinerie totale proche du Havre. Pas de blessés, mais la préfecture a conseillé à la population de rester chez elle jusqu'à la mi-journée. Le feu est maintenant éteint, les premières mesures de qualité de l'air sont négatives. Dans le sud-ouest, les intempéries ont fait pour l'instant un mort au Pays Basque, un disparu dans le Lot-et-Garonne. 60 000 foyers sont privés d'électricité, dont 10 000 encore dans le nord. Le trafic SNCF et RATP toujours perturbé ce samedi, et d'ailleurs tout le week-end. Les usagers connaîtront en début de semaine le trafic pour les fêtes. Je vous rappelle que le patron de la SNCF a demandé aux cheminots de faire une pause pour Noël. Le football, victoire de Lille sur Montpellier hier soir, OMS à 17h30. Ce soir, le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Sachez aussi que dans le cadre de la Coupe du Monde de ski à Val d'Isère, le slalom messieurs a été annulé ce matin en raison du vent. Et donc c'est vous, Madame Météo, aujourd'hui sur RTL, Juliette Binoche.
C'est encore un temps agité aujourd'hui. 10 départements du Sud-Ouest sont en vigilance orange inondation. La Haute-Corse est en vigilance orange pour vent violent. Et l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pour risque d'avalanche. Ça soufflera moins fort cet après-midi sur l'ensemble du pays. Le ciel va rester gris et pluvieux dans le sud, entre les Charentes et la Gironde, jusqu'aux Alpes. Les éclaircies reviendront sur les Pyrénées et seront encore plus belles près de la Méditerranée. Et au nord de la Loire, on aura un ciel variable ponctué d'averses. Les températures maximales seront douces pour la saison. 21 degrés à Bastia, 19 à Perpignan, 15 à Bordeaux, 14 à Clermont-Ferrand, 12 à Brest et Tours et 11 à Paris.
Bon, parfois la météo est beaucoup plus simple hein, quand il fait beau partout. Là, effectivement, vous n'avez pas tiré le meilleur lot, mais vous l'avez parfaitement descendu, comme on dit. Juliette Binoche, dans le journal inattendu.
On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé. Un arbre s'est vite fendu, le bois, quelqu'un a dû le vendre. S'il savait le mal que j'ai eu à descendre. ailleurs en suis-je descendu ?
La robe et l'échelle, signé Francis Cabrel, histoire d'arbre, pour introduire votre invité Juliette Binoche. Thomas Brail, créateur du groupe national de surveillance des arbres. On va l'accueillir dans un instant, mais vous, vous êtes connu dans un arbre.
Tout à fait, je suis venue le rejoindre dans son, voilà, son fief, sa résistance sur cet arbre devant le ministère de l'écologie, si je me souviens.
Tout à fait, oui.
Et voilà, j'avais envie de faire un saut et de le soutenir parce que je trouve que c'est formidable. Il se bat un peu seul et maintenant il essaye de réunir des gens et je crois que la cause est importante parce qu'il s'agit de notre survie.
Bah oui, bah on va en parler. Bonjour Thomas Brail.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Après cette petite présentation de Juliette Binoche, comment on peut vous qualifier ? Lanceur d'alerte, activiste non violent, simplement amoureux des arbres qui veut les préserver ?
Ben en fait, je vais me répéter, je suis simplement un père de famille qui a peur pour l'avenir de son fils. Je suis citoyen du monde et grimpeur arboriste, voilà ce que je suis, tout simplement. Et je pense que... j'ai un peu ras-le-bol qu'on mette toujours des nominatifs sur les personnes qui font des choses. Moi, j'estime que...
D'accord, mais c'est pas banal de grimper en haut d'un arbre pendant 28 jours, je crois, devant le ministère de l'écologie. C'était après la démission de Nicolas Hulot, je crois.
Ah oui.
C'était bien après, puisqu'il y a eu De Rugy qui est passé, et puis ensuite Madame Borne, maintenant.
Oui.
Juste pour information, quand on est dans un arbre, on est beaucoup plus en sécurité que quand on est au sol. et moi dans les arbres je m'y sens très très bien puisque c'est mon métier.
Ouais.
Ça me dérange pas de dormir dans un arbre, loin de là quoi.
Ouais. Comment est né ce combat pour la sauvegarde des arbres? On vous a vu en conflit notamment dans des communes où on veut abattre des platanes, des tilleuls,
mais en fait le groupe, enfin j'ai créé le groupe national de surveillance des arbres c'est très jeune hein, ça date maintenant de à peu près 8 mois. Au mois de mai, dans la commune qui m'a vu naître, on a voulu abattre 9 platanes qui avaient 200 ans.
Et pour quelle raison?
Mais tout simplement parce que on met ça souvent sur des causes de sécurité, des causes. Et puis en fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ben il y a la dame d'à côté qui a demandé parce qu'elle avait des feuilles sur sa toiture, qu'il y avait des branches, voilà. Et puis. Et c'est souvent comme ça, en fait. Et puis, comme on est en période électorale bientôt, on abat des arbres. Les arbres tombent beaucoup plus, il faut savoir, en ce moment, qu'avant les périodes électorales. Donc là, on fait plaisir parfois aux citoyens français, enfin aux citoyens de sa commune, sous couvert de récupérer de la voix électorale. Pas tout le monde, bien entendu, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais toutes les affaires que je suis en train d'essayer d'élucider en ce moment et de mettre un petit peu en avant, mais c'est souvent voilà, la grande motte, pareil, on a 26 platanes là qui vont être abattus. Il y a quand même 8031 arbres à la grande motte qui vont être abattus entre 2017 et 2024. 8000 pins parasols qui ont été plantés au tout début de la grande motte, puisque c'est quelque chose qui est tout neuf et qui est tout récent, la grande motte.
Oui, et là donc les années 60, j'imagine.
Voilà, tout à fait. Et là on est descendu des arbres qui ont à peu près mon âge, voilà, 40 ans, on les a vus tomber ce jour-là quand je suis venu. Donc ils se sont calmés parce qu'on était là, on a fait venir la presse, on a fait venir France 3. Mais il faut savoir que c'est partout en France.
Les arbres que vous défendez, souvent, je suis allé voir les maires des communes concernées ou les préfets, ils disent ces arbres, ils sont malades. Ils représentent une menace, un danger pour la
population. Ce qui se passe en ce moment aussi, c'est que les arbres sont absolument nécessaires, parce qu'on sait bien que par rapport au changement climatique, c'est vraiment ce qui va nous sauver en premier, et on devrait vraiment se pencher sur le fait de planter des arbres, c'est beaucoup plus important que n'importe quoi. Donc de les couper, c'est à contresens de notre bien.
Bien sûr, les deux seules choses, il faut savoir, sur la planète qui nous donne de l'oxygène, c'est le phytoplancton qui sont dans les mers et dans les océans, d'accord. Sauf qu'on connaît l'état des océans à l'heure actuelle. Et c'est les arbres. Ce sont les arbres. Donc en fait, on parle de déforestation, on parle de l'Amazonie, ça brûle, on est tous alertés par ça, de tous ces pays où c'est qu'il y a beaucoup des poumons, on appelle ça ces pays poumons. Mais la déforestation, elle est partout. Moi, quand on abat un arbre en France, quand on abat sur des allées, au bord des routes, on abat des platanes ou dans les villes, la déforestation, à partir du moment où vous abattez un arbre, vous réduisez la possibilité d'avoir de l'oxygène.
Parce qu'il faut savoir aussi que dans les années années 60-70, le gouvernement a poussé les paysans à couper les haies Bocagère. autour des champs et que c'est une catastrophe. Ouais. D'abord parce qu'il y a des inondations, ouais. que les nappes phréatiques ne se remplissent plus parce que l'eau rentre par les racines des arbres pour remplir les nappes phréatiques. C'est une catastrophe.
On et doit la biodiversité, urgemment... tous les oiseaux qui vivent là-dedans.
Absolument, toute la biodiversité. Le gouvernement doit, le ministère de l'écologie et plusieurs ministères doivent se mettre ensemble pour remettre des haies afin que...
Dans les champs. Et sur les arbres, vous vous basez sur des bases juridiques, sur des règles, sur des lois. Je pense à l'article L350-3 du Code de l'environnement.
Ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant, il y a énormément de monde qui connaissent cet article, notamment sur les conseils départementaux, régionaux ou dans les mairies. On commence à connaître cet article parce qu'on l'a affiché au ministère de la Transition écologique et que je l'ai rabâché. Cet article était dans un tiroir du ministère et tout le monde l'avait oublié, j'ai l'impression.
Et qu'est-ce qu'il dit en deux mots, cet article ?
En deux mots, cet article, il dit qu'on ne doit pas abattre les arbres d'alignement, que c'est interdit, tout simplement. Alors après, vous avez toujours les petites dérogations en bas, mais moi, les dérogations, je suis désolé, à l'heure actuelle, les dérogations, je les oublie. Parce que ce qui m'importe, c'est que les arbres vivent pour que nos enfants puissent respirer demain, quoi.
Thomas Braille, voilà, retenez son nom et puis vous pouvez aller voir parce que vous avez créé cette association, le groupe national de surveillance des arbres. Et donc, on trouve tout ça, évidemment, sur Internet. Et quand ça va vraiment mal, vous grimpez.
Écoutez, contre une tronçonneuse, à l'heure actuelle, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que de grimper dans l'arbre. Voilà.
Merci beaucoup.
Comme un arbre dans la ville.
Après avoir reçu Thomas Braille, dans un instant, on va parler de vous. Revenir évidemment, Juliette Binoche, sur la vérité, le film qui sort le 25 décembre avec Catherine Deneuve.
Un beau cadeau à se faire.
Ah, ça c'est un beau cadeau de Noël. Après les cadeaux, hop, au cinéma, la vérité. Et puis ensuite, faire un petit tour au pays des merveilles de Juliette.
Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos.
Juliette Binoche est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Avec Carrefour, origine France.
Le journal inattendu sur RTL, avec Juliette Binoche et Vincent Parisot.
C'est quoi ça, maman ? Tu te fiches du monde, là, hein ? Moi, j'ai du mal à voir où est la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école et la voir arriver vers moi en courant, me mettait en joie. Lumière était toujours l'une des premières à sortir et nous rentrions à la maison, main dans la main. Elle me racontait alors sa journée, dans les moindres détails, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Les seuls qui venaient me chercher à l'école, c'était papa ou Luc.
Je me balade pas pour le plaisir, là, tu vois, j'apprends mon texte.
Non, mais je rêve. T'as mis des post-it?
Mais quoi, mais tu prépares... Tu fais une recherche sur moi, tu prépares un examen. Un examen en Fabienne, hein? Première année, deuxième année.
N'importe quoi. Je suis actrice, hein? Je vais quand même pas raconter la vérité toute nue. Surtout que la vérité n'a rien de passionnant. Ah, tu aurais voulu que je dise plus de bien que toi.
Il s'agit pas de moi, là. Pourquoi est-ce que tu mentionnes pas une seule fois le nom de Sarah ?
Sans mes mémoires, c'est mon livre. J'ai le droit de choisir les épisodes de ma vie, non ?
Voilà, La Vérité, le 25 décembre, film de Kore-eda Hirokazu. Vous avez d'ailleurs connu Juliette Binoche, Catherine Deneuve. C'est quand même sans doute la scène centrale de ce film, là où on comprend qu'effectivement...
Il y en a plusieurs des scènes centrales.
Oui.
C'est un bon ping-pong, ouais.
Celle-là est quand même essentielle. Vous êtes en train de lire les mémoires de votre mère.
Bah, c'est une grosse menteuse, quoi. Bah, c'est insupportable.
Voilà. Oui.
Les parents qui mentent.
Mais surtout quand la fille lit les mémoires de sa mère et qu'elle trouve pas sa place.
Et puis elle invente des histoires.
Ouais, ouais.
Mais la vérité est dans tous les camps, c'est ça le problème.
Parce que vous êtes exaspéré par l'égoïsme de votre mère, son égocentrisme. Et en même temps, on va voir dans le film que, au fur et à mesure, y a une autre vérité qui va apparaître.
Oui, et je pense que quand... Voilà, dans une famille, on voit tout d'un coup ses parents petit à petit prendre de l'âge aussi, ouais. Et pas avoir la même force qu'avant. Ça ouvre son cœur et il y a une compassion quand même qui apparaît. Donc on voit un changement qui se passe, mais avant ça, il y a pas mal de confrontations. Et puis c'est un film qui se passe sur plusieurs générations. C'est ça qui est beau aussi. Ouais. Hein,
et puis d'ailleurs, il y a un film dans le film, puisque Catherine Deneuve, enfin Fabienne, tourne un film de science-fiction où elle est la fille d'une femme éternellement jeune. Donc là, c'est un pied de nez, retournement complet.
Oui, parce que quand on va dans l'espace, normalement, on vieillit beaucoup moins vite. Hein. Oui. Donc, elle décide finalement, la maman, de partir dans l'espace. Enfin, bon, on ne va pas révéler toutes les histoires du film.
On ne va pas rentrer dans le détail. C'est à voir le 25 décembre, avec des hommes, hein, notamment celui qui joue votre mari.
Qui sont merveilleux. Voilà. Oui,
Ethan Hawke. Oui. Enfin, on voit bien qu'ils sont là pour vous entourer, vous accompagner. D'ailleurs, à un moment, vous dites à votre mère qu'il est quand même meilleur amant que comédien, ce qu'elle approuve, parce que dès le début, elle trouve que c'est un comédien raté.
Alors que son mari, son compagnon, est meilleur cuisinier qu'amant. Donc, oui, c'est vrai que ça rigole beaucoup et que les âmes sont quand même très présents. Il ne faut pas exagérer.
Voilà, la vérité sur les écrans. Juliette Binoche est l'invitée de ce journal inattendu. Et en plus, elle chante.
Monter sur scène en pleine lumière vêtue de son habit de scène, c'est faire preuve d'un grand égocentrisme et d'une belle indécence. Et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche, comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien.
Voilà, elle chante Barbara avec au piano, on s'en souvient, Alexandre Tarot, c'était le spectacle Vaille que vivre, c'est ça,
oui.
Avignon en 2017.
Oui.
Vous n'aviez jamais pris de cours de chant?
Non, jamais. Je me suis inventée chanteuse juste avant le spectacle. Et puis après, Alexandre est parti faire du piano ailleurs, retrouver son Scarlatti.
Mais c'est ça qui est incroyable. Vous êtes inventée chanteuse et vous êtes devenue chanteuse. Vous êtes inventée danseuse. Vous n'aviez jamais pris de cours de danse?
Non.
Et voilà.
Pas vraiment,
vous avez dansé avec le grand chorégraphe, quand même, Akram Khan. C'est-à-dire, c'est ce mystère-là chez Juliette Binoche,
ce courage
ou cette inconscience qui l'amène.
Oui, mais je crois qu'on a tous des talents. C'est à nous aussi de les ouvrir, de les travailler, d'être constant et de prendre des risques. C'est à nous aussi de nous nourrir des formidables moyens qu'on a de connaissances et puis de joie, quoi. Ça, c'est d'aller vers des talents nouveaux, ça apporte vraiment du bonheur et je crois qu'il faut s'y risquer, chacun.
Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le chorégraphe danseur Akram Khan fête actuellement à la Villette ses adieux. C'est sans doute l'occasion d'aller le voir. Il y a des films, évidemment, il y a des films qui marquent toute une génération. Évidemment, celui-là.
Oh, c'est bouillant. Oh là là. Le trottoir, il est bouillant. Comme à New York. À midi, l'été. C'est incroyable.
Mais oui, t'as pas lu les journaux. C'est le passage de la comète de Halley. À 10 000 km de la Terre, cette nuit. Qui provoque cette chaleur épouvantable. Ça va durer encore quelques jours.
La comète de Halley? Allez.
Mais si, Anna.
En 86, lorsque sort Mauvais sang de Léos Carax avec Piccoli et Denis Lavant, vous avez 22 ans et vous avez déjà joué avec Godard, Doyon, Téchiné.
Et André Konchalovski au théâtre.
C'est tout simplement incroyable. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est tout à fait normal de tourner à 22 ans avec les plus grands réalisateurs? Après, il y a cette histoire, évidemment, Léos Carax, mais avant même
Mauvais sang. Je crois que j'étais pas tout à fait consciente de ce qui se passait, et je crois que dans la fougue de la jeunesse, on n'est pas conscient de sa force du tout et de son pouvoir quelque part. Donc, j'avais pas de conscience spéciale. J'étais juste prise par la passion de rentrer dans des univers différents, d'être confrontée à des metteurs en scène différents et des situations aussi à jouer fortes. En fait, on se construit au fur et à mesure et j'ai pas cette habitude de vraiment regarder en arrière dans le passé, parce que le présent m'intéresse beaucoup plus.
Il faut dire qu'il y en a eu des choses, effectivement. On pourrait regarder dans le passé et en voir des choses. Évidemment, L'insoutenable légèreté de l'aide de Philippe Kaufman. Évidemment, cet Oscar à Hollywood pour Le patient anglais. On peut dire le hussard sur le toit. C'était il y a quelques années, mais aujourd'hui encore, Juliette Binoche est bien là, sur scène, je ne sais pas, mais au cinéma, dans La Vérité. Le film sort le 25 décembre avec Catherine Deneuve et pour encore quelques minutes dans le journal inattendu d'RTL. A tout de suite.
Ah, 12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Juliette Binoche avec Vincent Parizeau sur RTL.
Juliette Binoche pour encore quelques instants dans le journal inattendu d'RTL. On vous doit notamment cet appel signé par 200 personnalités pour une action politique ferme et immédiate face au changement climatique, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Vous avez, fait appel à vos réseau, je ne sais pas, vos amis.
Avec l'aide d'Olivier Glusman qui m'a aussi m'a aidé parce qu'on était en tournée justement pour Barbara, je chantais sur les scènes chinoises.
Ouais.
Et donc on a réussi en une semaine à réunir 200 personnalités pour signer ce manifeste.
Ce manifeste lancé avec l'astrophysicien Aurélien Barreau, dont on peut apprécier les connaissances, surtout le talent de vulgarisation lors de ses conférences ou sur Internet. J'ai encore fait ça hier soir. Il est fascinant avec en prime ce look Géronimo, qui ne gâche rien. Bonjour Olivier Barreau.
Aurélien.
J'ai dit Olivier. Aurélien Barreau. Bonjour Aurélien
Barreau.
C'est
pas très grave. Bonjour.
Bonjour Aurélien.
L'appel que vous aviez lancé avec Juliette Binoche se poursuit dans un livre chez Michel Lafon avec le même titre. Vous prévenez d'emblée le lecteur, vous dites « Je suis astrophysicien, je ne suis pas écologue ». Ça veut dire quoi ? C'est un livre de citoyen ?
Oui, c'est un livre de vivant qui est un peu concerné par la disparition de la vie et finalement je pense que c'est la moindre des choses. Quelle que soit notre spécialité, quelles que soient nos compétences, on ne peut pas rester indifférent face à l'effondrement de la vie sur Terre.
Mmh. Dans une interview au Point, vous disiez il y a quelques mois « Plus personne de normalement cérébré » ne doute de la catastrophe environnementale. Oui, mais on en connaît. On en connaît, on ne va pas forcément les citer, mais on en connaît.
Non, mais je ne crois pas. Je veux dire, là, ça relève du négationnisme. Vous savez, une enquête très récemment...
Vous voulez dire que Donald Trump est un négationniste ?
Vous savez, je ne lis pas ce que dit M. Trump, à dire vrai, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait est que, par exemple, dans le domaine de la vie qui comporte le plus d'espèces, le plus d'individus et la plus grande variété de comportements, en 10 ans, c'est rien du tout, hein, la biomasse a chuté de 67%. Mmh. Ça, c'est un fait scientifique, on ne peut pas en douter. Donc je crois maintenant qu'il faut arrêter de donner la parole et de surmédiatiser et de publiciser des gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune bonne volonté et qui simplement essayent de nous tromper. Voilà, il n'y a aucun doute scientifique. Il faut le dire de la façon la plus claire possible.
Eh bien, ça a été fait, clairement, sur l'antenne d'RTL. Le reste est à lire. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est chez Michel Lafon.
Et je remercie Juliette, qui a vraiment
merci
été
à toi, Aurélien. C'est formidable de t'entendre sur les médias parler de...
Généreuse.
Ouais, merci.
Généreuse, on l'a remarqué, on l'a noté pendant une heure. Merci beaucoup Aurélien Barreau, merci beaucoup généreuse Juliette Binoche. La vérité, le film est à voir à partir du 25 décembre, c'est Noël avec Catherine Deneuve. Merci beaucoup,
merci beaucoup.
D'être venue sur RTL.
J'étais heureuse d'être là.
Dans un instant, Jean-Alphonse Richard confidentiel avec Mort Schumann.
RTL. Le journal inattendu. Ça pince.